Comme nous sommes encore en automne pour quelques semaines, je vous propose de commencer cette émission par vous imaginer en forêt. Vous êtes entouré d'arbres dont les feuilles ont changé de couleur et ont commencé à tomber. Vous marchez tranquillement sur celles qui sont au sol en respirant un air frais et humide qui sent la terre, qui sent la nature. Et vous tombez soudain sur quelque chose d'étonnant. Un organisme étrange, un organisme qui n'a pas de feuilles, qui n'est ni un légume, ni un fruit. Un organisme qui, en fait, n'est pas une plante non plus, ni un animal. C'est un champignon. Alors, il n'a peut-être l'air de rien, ce champignon, mais sachez que sans lui, les arbres et les plantes qui nous entourent ne pourraient pas se nourrir, ils ne pourraient pas utiliser les nutriments présents dans les sols pour se développer. Mais ce n'est pas tout. Une étude publiée cette année dans le journal Nature Genetics et menée à l'université de Toulouse, notamment par Chloé Beaulieu et Cyril Libourel, a montré qu'en réalité, sans les champignons, les plantes que nous connaissons n'existeraient tout simplement pas. Il y a environ 450 millions d'années, alors que l'ancêtre des plantes ne vivait que dans l'eau sous forme d'algues, un champignon a offert certains de ses gènes à ces algues, leur permettant de s'adapter aux conditions terrestres et donc de conquérir la planète entière. Comme les champignons d'ailleurs, qui se sont eux aussi adaptés à la terre ferme. Alors, on sait ce que sont devenues les algues, mais que sont-ils devenus ces champignons? Est-ce que nous les trouvons uniquement en forêt en automne ou y en a-t-il ailleurs toute l'année? Et surtout, bien qu'ils nous aient offert les plantes et les fleurs, sont-ils nos amis ou est-ce qu'ils sont potentiellement une menace pour l'humanité tout entière? Pour nous éclairer et nous faire frissonner, pour nous raconter le meilleur et le pire des champignons, depuis ceux qui sont dans notre assiette jusqu'à ceux qui transforment les insectes en zombies, voici mes trois invités.
Bonjour, je suis Audrey Dussutour, je suis directrice de recherche au CNRS et je suis myrmécologue et non pas mycologue, c'est-à-dire que je suis spécialiste de l'étude du comportement des fourmis et je me suis intéressée aux champignons parce qu'il s'avère qu'ils zombifient les fourmis.
Bonjour, je suis Hubert Voiry, je suis ingénieur forestier retraité et mycologue. Donc les mycologues s'intéressent aux champignons, pas seulement à ceux qui se mangent. Et donc j'ai commencé vraiment à étudier les champignons à la suite d'une formation, d'un stage d'une année dans un centre de recherche où j'ai étudié les mycorhizes, les ectomycorhizes, donc ces petites racines colonisées par des champignons bénéfiques qui aident les arbres à se nourrir.
Bonjour, je m'appelle Aurélie Saada, je suis auteure, compositrice, chanteuse. Et je suis fascinée par les champignons suite à un documentaire où j'ai compris que les champignons étaient capables du meilleur comme du pire, qu'ils n'étaient ni végétal ni animal et qu'en fait un monde entier était là partout autour de nous depuis toujours.
Aurélie Saada, Hubert Voiry et Audrey Dussutour, bonjour et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en public depuis le studio 621 de la Maison de la Radio. Vous écoutez Big Bang et nous allons parler de champignons.
France Inter.
Big Bang. Christophe Galfard.
Aurélie Saada, donc un documentaire que vous avez vu, je ne sais pas si vous vous souvenez du nom de ce documentaire, mais ça vous fait quoi? Ça vous inspire quoi l'idée qu'il y a des champignons partout autour de nous?
Mais en fait, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez poétique, fascinant, effrayant, magique. Et quand on croise un champignon, d'ailleurs, sur une route de campagne, il y a comme une magie. Moi, j'ai toujours l'impression que la lumière qui se pose sur ce champignon est un peu particulière, qu'il y a un cœur qui se met en route, enfin en tout cas, et se dire surtout qu'il y a ces champignons-là qu'on voit, mais qu'il y a tous les autres, qu'il y a ceux qui sont dans notre organisme et qui permet que ça fonctionne, il y a ceux qui nous sauvent la vie, il y a peut-être même ceux qui nous ont permis d'être, de passer de l'aquatique au terrestre, enfin en tout cas la vie. Je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument fascinant, on a envie d'en savoir plus, et où est-ce que ça va aller tout ça.
J'aime bien votre vision d'une petite lumière qui viendrait se poser sur un bout de forêt et peut-être donnerait naissance à un champignon. J'aime d'autant plus cette vision que les champignons ne font pas partie du domaine des plantes, ils ne sont pas capables d'utiliser la lumière du soleil, mais on a vraiment l'impression, je crois vous avoir entendu dire quelque part, que c'était des petites fées comme ça qui apparaissent au milieu des arbres. Hubert Voiry, est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est un champignon ?
On a déjà dit, ça a été dit que c'était ni animal ni végétal. Donc c'est vraiment à part et c'est caractérisé par donc, ce qu'on appelle champignon n'est qu'une partie du champignon. Donc ce qu'on appelle aussi la fructification. Donc ce qu'on ramasse en automne, pas pour les manger, les comestibles, ce n'est qu'une partie. L'autre grande partie, qui est même essentielle, c'est ce qu'on appelle le mycélium. Donc c'est un ensemble de filaments, donc plus ou moins microscopiques, ce qui fait que c'est difficile à observer, qui sont dans le sol, qui sont dans le bois, dans le bois lui-même, par exemple, et qui est l'organe végétatif. Et puis un troisième élément important pour la compréhension, ce sont les spores. Donc ces champignons, donc ces fruits, ces fructifications qu'on récolte, en fait, fabriquent des spores, portent les spores. C'est pour ça qu'on les appelle aussi des sporophores. Il y a des noms savants. Et ces spores sont en nombre très important, des milliards de spores qui sont produites par les champignons et qui assurent la dissémination des champignons quand elles germent dans des endroits qui leur sont plus favorables.
Vous, ce sont les spores en particulier que vous étudiez quand vous allez en forêt ?
Quand on est en forêt, enfin, quand on veut vraiment identifier complètement un champignon, donc on peut l'identifier à vue. Ben, quand on va récolter des cèpes, on ne va pas utiliser un microscope après pour confirmer l'identification. Mais par contre, pour beaucoup d'espèces, et la majorité, il est nécessaire d'étudier, oui, donc les spores et d'autres éléments microscopiques qui peuvent être observés donc au microscope.
Moi, j'adore l'idée qu'il y a un monde un peu comme Aurélie Saada. J'adore l'idée qu'il y a un monde invisible qui est autour de nous. Et lorsqu'on était en train de préparer cette émission, vous nous avez envoyé des images de certains spores de champignons. Il y en a quelques-uns qui ressemblent carrément à des cristaux qui sont absolument magnifiques et colorés. Il y a beaucoup de types différents de champignons qu'on peut discerner grâce à leurs spores.
Oui, en fait, déjà, les champignons ont des formes très variées. Donc, on est plus familier avec les champignons à chapeau, ce qu'on appelle champignons à chapeau et à pied, mais il y a des formes très, très variées, donc ce qui permet déjà d'avoir une idée de l'espèce. Et après, par la suite, du point de vue microscopique, on peut observer beaucoup d'éléments, même pour des champignons qui apparaissent insignifiants. On parle souvent des deux grandes divisions des champignons, à savoir les basidiophytes. Enfin, je suis obligé de rentrer un petit peu dans des termes
techniques. Ah mais allez-y. Et on essaiera de les traduire ensemble après.
Les deux grandes divisions, hein, c'est basidiomycètes et ascomycètes. Et en fait, leur caractérisation, peut être observée d'un point de vue microscopique. C'est-à-dire que les basidiomycètes donc, ont une cellule spéciale qui s'appelle une baside, en forme de gourdin, d'où sont formées les spores, qui après apparaissent à la surface de cette cellule et sont dispersées. Par contre, les ascomycètes, ce sont des sacs de spores. Enfin, ils sont fabriqués à l'intérieur d'un sac.
Avec des raquettes et tout ça à l'intérieur, c'est ça? Vous voyez, ce n'était pas si compliqué comme terme. Je pense qu'on a tous compris la différence entre les deux. Et est-ce qu'il y a une différence entre les champignons qui dans l'image que vous nous donniez à l'instant, si j'ai bien compris, un champignon, disons, ce n'est que le fruit, mais sous la surface des forêts, peuvent s'étaler peut-être parfois sur des centaines de mètres carrés, parfois peut-être sur des kilomètres carrés. L'autre partie principale des champignons est cette forme qui sort de terre, ne sort que de temps en temps pour la reproduction et pouvoir créer de nouveaux spores. J'ai une petite question. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les champignons qui donc naissent du sol et ceux qui naissent par exemple sur les arbres? Parce qu'on a tous et toutes vu déjà des champignons les troncs.
Disons qu'ils peuvent appartenir à la même famille. Donc, ils sont pas. Oui, mais disons que ce qu'on voit généralement sur les troncs, ce sont ce qu'on appelle des polypores, donc des champignons coriaces, donc généralement coriaces et durs, qui se nourrissent de bois. Mais on peut aussi trouver des polypores terrestres. Enfin, c'est un peu plus rare.
J'ai une question. Oui, la moisissure, c'est des champignons aussi. Est-ce que ça voudrait dire qu'on est, que toutes les choses qui ont été vivantes à un moment donné, un peu la Terre ? Qu'on a, nous aussi, des champignons à l'intérieur de tout, il y a déjà ces champignons qui peuvent apparaître.
Disons qu'il y a certains champignons aussi qui ne fabrique pas de fructification, qui reste à l'état de...
Quand il y a une pomme et qu'elle meurt, et qu'on la laisse traîner, elle finit par disparaître, dévorée par la moisissure.
Oui.
Donc, est-ce que ça veut dire qu'à l'intérieur de cette pomme, depuis toujours, il y a les champignons ?
Non, généralement, donc c'est justement ces spores qui peuvent arriver sur la pomme ou sur le bois, sur un autre substrat, et qui après, à partir de la spore, peut naître un mycélium.
Donc ça veut dire que les spores, finalement, remplissent l'air qui est autour de nous, ce qui nous amène... Oui, c'est extérieur. Mmh. En fait, ça fait partie des questionnements que s'étaient posés des gens comme Pasteur, qui se demandaient à un moment si... pourquoi est-ce que les choses pourrissent tout d'un coup ? Est-ce que la pourriture naît spontanément à partir d'objets qui soient vivants ou non ? Ou est-ce que ça venait de l'extérieur ? Et c'est lui le premier qui a réussi à prouver que l'apparition spontanée de saleté, de tout ça, n'existait pas. Et donc, c'était forcément porté par l'air qui venait se poser sur les pommes, sur les aliments, tout ça. Et c'est pour ça qu'on les met dans des frigos, où ça ralentit, ou bien qu'on les met dans du vide, pour pouvoir les conserver un petit peu plus longtemps. Audrey Dussutour, j'ai une petite question à vous poser pour vous aussi. Aurélie Saada disait tout à l'heure qu'elle voyait, elle imaginait un monde avec des champignons un petit peu partout. Est-ce qu'il y en a réellement partout, quand même peut-être pas sur nous?
Alors dans cette pièce, il y en a plusieurs milliards, puisqu'on en porte au moins tous 10 millions sur la tête. On en
rien
a 15 millions sur le corps. On en a 4 milliards dans notre tube digestif. Et ça, c'est juste en nombre, mais en nombre d'espèces aussi. Notre cuir chevelu abrite 10 espèces différentes. Nos pieds, une centaine d'espèces différentes. Donc en fait, on est... Et il y en a aussi dans l'air. Là,
et ça change rien qu'on se lave ou non?
Ben non, et c'est pas lié en fait à l'hygiène. Et en fait, ces champignons, certains, on les appelle des commensaux, c'est-à-dire qu'ils vivent en harmonie avec nous. Et le plus commun sur la peau, c'est Malassezia. Alors Malassezia, quand il prend trop ses aises, c'est celui qui va créer les pellicules et le pityriasis. Parce qu'en fait, c'est un champignon qui n'est pas capable de synthétiser l'acide gras, le gras. Et donc, il va manger notre sébum, tous les corps gras qu'on a, et donc en particulier ici.
Donc, il assèche la peau. Quand vous disiez ici, vous montriez sous le cou.
Voilà. Oui. Et donc, ces champignons, habituellement, on vit en harmonie avec eux. Et c'est quand on a des déséquilibres, par exemple, quand on prend des antibiotiques, on va tuer les mauvaises bactéries, mais aussi celles qui vivent en harmonie avec nous. Et du coup, quand il y a moins de bactéries, le champignon va prendre ses aises parce qu'il a moins de compétition. Et là, c'est problématique pour nous. Et donc, par exemple, les femmes connaissent bien les mycoses, puisque 3 femmes sur 4 vont être touchées au moins une fois dans sa vie par des mycoses, et c'est lié souvent à la prise d'antibiotiques.
Les bactéries, vous dites, et les champignons sont en combat ?
Ils doivent partager un espace. Et donc, on sait que, par exemple, Malassezia, cette petite levure, donc ce petit champignon qui vit sur notre peau, nous protège, par exemple, contre le staphylocoque doré, qui est une bactérie qui est pas très sympa.
Qui, elle, pour le coup, on n'en veut pas du tout.
Non, on n'en veut pas du tout.
On n'en veut pas du tout.
On est content d'avoir des champignons sur nous.
C'est pas vraiment soigné. Est-ce que ces champignons-là qu'on imagine un petit peu partout... je ne sais pas exactement comment le formuler sans paraître un peu science-fiction, je ne sais pas quoi, mais disons, est-ce qu'ils peuvent réfléchir ? Est-ce qu'ils ont une pensée ? Est-ce qu'ils ont une réflexion ? Ou est-ce qu'ils peuvent... Vous avez été spécialiste du blob, et qui avait étudié le comportement de cet organisme bizarre, qui est capable d'aller d'un endroit à un autre en regardant le chemin le plus simple. Donc on a l'impression qu'il y a une sorte de réflexion qui a lieu, de pensée peut-être, ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais est-ce qu'on peut partir dans ce genre de réflexion pour les champignons aussi ? Est-ce qu'ils réfléchissent à leur existence ?
Oui, alors je ne sais pas si les champignons réfléchissent, mais on parle de plus en plus de sentience chez ces organismes qui sont dépourvus de système nerveux, les plantes, les champignons, les blobs, donc les organismes unicellulaires, parce qu'on se rend compte que les champignons et les blobs aussi, ils ont des comportements beaucoup plus complexes que ce qu'on avait imaginé avant, parce qu'on les regarde vraiment avec un regard nouveau. C'est vraiment que historiquement, les champignons ont été étudiés par des gens qui travaillaient dans des départements de biologie végétale. Et là, maintenant, les champignons arrivent dans les départements de biologie animal. Et donc, avec notre expérience à nous, on va leur soumettre des défis à ces champignons, comme on le ferait pour des animaux. Donc, on commence à les regarder avec un petit peu un regard d'éthologue, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie le comportement des animaux. Et dernièrement, il y a des études qui montrent, en fait, que les champignons sont capables de prendre des décisions. Et on commence à parler de sentience chez des organismes qui sont dépourvus de système nerveux, donc les plantes, les champignons et les organismes unicellulaires. Et donc, ça, c'est des questions assez intéressantes parce qu'on a longtemps négligé, en fait, la complexité de ces organismes. Et on s'aperçoit que, par exemple, ils sont capables de prendre des décisions, de sélectionner des sources de nourriture qui sont de meilleure qualité quand on les met dans un système de cafétéria, par exemple. La même chose qu'on fait avec le blob. Et donc là, c'est vrai que ça pose des questions. On se demande jusqu'où on peut aller. On a montré, par exemple, des capacités d'apprentissage chez les plantes et chez les blobs. Donc je pense que la prochaine question, c'est est-ce que les champignons peuvent apprendre eux aussi ?
Écoutez, est-ce que ça nous dit qu'il faut qu'on soit un petit peu inquiet que cette intelligence remplace la nôtre ? Nous, on essaie de faire une intelligence artificielle, mais peut-être que tout autour de nous, les champignons sont capables de prendre des décisions folles.
Il faut penser à d'autres formes, en fait, de comportement. On a toujours cette idée de se comparer avec les animaux. Est-ce que les animaux ils sont capables aussi de faire ça ? Est-ce que les champignons ils sont aussi capables de faire ça ? En fait, c'est vraiment respecter en fait, des formes différentes d'intelligence. Et moi, je trouve ça très intéressant. Et on peut s'inspirer beaucoup, en fait, de comment les champignons interagissent avec leurs hôtes quand ils sont des parasites ou en symbiose avec les arbres, par exemple. Et donc, il faut vraiment regarder beaucoup plus ces organismes. Et Hubert le dit très bien dans son dernier livre, il faut vraiment qu'il y ait plus de gens qui s'intéressent aux champignons parce que c'est vraiment un monde assez fascinant. Et ils ont des stratégies. Et c'est vrai que des fois, on fait de l'anthropomorphisme parce que, par exemple, quand un champignon manipule un insecte, on se dit, mais comment il fait ? Comment il peut prendre les commandes de cerveau d'un animal ?
On va rentrer dans les zombies dans quelques instants, mais j'ai une autre petite question peut-être pour vous, Hubert Voiry, à savoir, pourquoi est-ce que les champignons sont aussi vénéneux ? Ça me permet de faire une petite parenthèse entre vénéneux et venimeux. On dit vénéneux en général pour les plantes, venimeux pour les animaux, mais d'après ce que Audrey vient de dire, peut-être qu'on devrait dire venimeux pour les champignons aussi. C'est lorsqu'ils sécrètent un poison. Pourquoi est-ce qu'ils ont du poison, les champignons ?
Pour se protéger des prédateurs, ce serait plutôt des petits animaux qui les consomment. Je pense que c'est une explication, mais c'est vrai qu'il y a une grande différence. Oui, il y a une grande différence, et bien des comestibles et vénéneux. Et on dit plutôt toxique maintenant, plutôt.
Troisième catégorie.
Oui, pour se protéger la fructification. Mais c'est vrai qu'il y a des toxines très fortes, puisqu'il y a des champignons mortels.
Ma question, elle est peut-être un peu aussi dans le sens où les champignons, contrairement peut-être aux animaux, digèrent leur nourriture à l'extérieur de leur corps. Et vu qu'ils doivent se battre peut-être entre eux pour les ressources qui sont dans les forêts, est-ce que c'est pour ça aussi peut-être qu'ils utilisent des stratégies pour s'accaparer certaines ressources ?
Ils se battent entre eux, donc effectivement. Donc l'intérêt du poison, de substances excrétées qui annihilent l'adversaire, c'est un avantage pour se procurer la ressource en premier.
Eh bien, avant de partir sur les zombies que peuvent devenir certains insectes à cause des champignons, je vous préviens, ça ne va pas être pour les sensibles, la deuxième partie de cette émission. Je vous propose de nous donner fin avec la crêpe aux champignons d'Olivia Ruiz.
Il est parti hier matin. depuis 606 matins, 606 jours que les voisins hurlent de leur fenêtre que je dois la boucler. Ils disent que je suis folle, que c'est moi qui l'ai tué, que mes idées s'envolent, que j'ai tout oublié. Moi je sais que c'est faux, pour qu'ils reviennent, je chante haut.
Nous sommes toujours en compagnie de mes trois invités, la chanteuse Aurélie Saada, la biologiste Audrey Dussutour et le mycologue Hubert Voirie, et bien sûr le public du studio 621.
France Inter. Christophe Galfard. Big Bang.
Aurélie Saada, je sais que vous adorez cuisiner, je sais que vous adorez cuisiner les champignons, mais je suis pas sûr que ce que nous allons entendre maintenant va vous donner très très faim. Audrey Dussutour, les champignons peuvent aussi être des parasites qui donc utilisent, des parasites sont des organismes qui utilisent d'autres organismes pour vivre, mais il y en a certains qui sont une forme de parasitisme assez particulière où on a l'impression qu'ils transforment l'hôte en zombie.
Oui, la zombification chez les champignons est assez commune en réalité. Elle se retrouve même dans deux groupes de champignons très éloignés qui ont eu la même idée un petit peu. Il y a les entomophthorales, ils s'appellent des dévoreurs d'insectes, donc déjà ça porte bien leur nom. Et il y en a un particulier qui est mon préféré, qui s'appelle Massospora, et il s'attaque aux cigales, aux gentilles cigales. Et donc, aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle les cigales périodiques, qui émergent ensemble tous les 13 à 17 ans. Donc, c'est des millions, il faut imaginer des millions de cigales. Et ces cigales, quand elles émergent en forme de nymphes, alors on dirait des quasimodos, ces petits insectes ne sont pas très jolis, ils attrapent des spores, de Massospora, de ce champignon, qui rentrent dans l'insecte, et au départ, Massospora, il ne fait rien. Il attend en fait que la cigale se métamorphose en belle adulte, comme on les voit dans la nature. Et là, le champignon, il va se diriger vers les parties génitales de la cigale et il va commencer à s'en nourrir. Donc, il va manger les parties génitales, vraiment donc le bout de l'abdomen des cigales, femelles et mâles. Et donc, les cigales, on sait qu'elles émergent pour se reproduire au printemps. Et donc, le champignon devient sexuellement transmissible, puisqu'à chaque fois que les cigales vont s'accoupler entre elles, elles vont se transmettre ces spores de champignons qui émergent de leur derrière.
Elle commence bien votre histoire.
Faut imaginer une cigale qui a un petit coton blanc. Alors, pendant l'accouplement, ça n'a pas l'air de les déranger, que chacune a un petit coton blanc sur les fesses. Et alors là où c'est retors, c'est que le champignon, il sécrète des psychotropes et des amphétamines qui vont directement dans le cerveau de la cigale et qui la rend hyper sexuelle. C'est-à-dire que le mâle, il n'a envie que d'une chose, c'est de se reproduire. Mais du coup, avec des femelles comme avec des mâles. Et donc, quand il croise un mâle, pour essayer de l'attirer, il va imiter le comportement de la femelle.
Excellent.
Et donc, l'autre mâle, lui, il y voit que du feu. Et il va essayer de se reproduire. Et chez les femelles, c'est un peu la même chose, puisque une femelle, normalement, une femelle cigale, quand elle s'est reproduite, elle va pondre des œufs, puis bon, là, elle finit sa vie. Mais là, comme elle a la moitié de son derrière qui lui manque, elle ne peut pas pondre des œufs, donc elle n'est pas satisfaite, et elle va commencer à se reproduire à l'excès. Donc, on a donc ces champignons, là, qui font une espèce de frénésie d'accouplement. Et les cigales qui attrapent les spores lors de l'accouplement, elles vont développer une autre phase du champignon qui est beaucoup plus destructrice. Là, le champignon, il ne se contacte pas des parties génitales. Il va manger tout l'abdomen de la cigale et il va craquer l'abdomen comme ça. Et l'abdomen va s'ouvrir et toutes les spores vont tomber sur le sol pour infecter les cigales 17 ans plus tard.
Sympa, ça donne envie d'une omelette aux champignons tout ça. Je vous vois terrifiée, Aurélie Saada.
C'est incroyable parce que la nature invente les plus merveilleux scénarios de films, en fait.
Personne n'a osé s'inspirer de cette histoire
parce
pour en faire un film.
C'est quand même incroyable, c'est...
The Last of Us, il y a un peu de ça dedans quand même.
Enfin, voilà, alors Last of Us, on a la cigale et la fourmi dans la fontaine. La fourmi est aussi zombifiée par les champignons. Et là, c'est celui qui a inspiré le jeu vidéo. Donc là, c'est un cordyceps. Et donc là, c'est la fourmi quand elle part récolter. Donc il faut imaginer, dans une colonie de fourmis, vous n'avez que 10% des fourmis qui sortent de la colonie pour aller récolter de la nourriture pour les autres. Et là, elles attrapent des spores de champignons. Et là, cordyceps, lui, ne mange pas les parties génitales de la fourmi.
Sympa.
Il est sympa. Ouais. Mais là, la fourmi, pendant la première journée, on voit rien. En tant que scientifique, on ne peut pas observer de différence. C'est au bout du deuxième jour. Déjà, elle ne sort plus. Alors ça, c'est très bizarre pour une fourrageuse, parce que les fourmis sortent tout le temps. Donc ça, c'est le deuxième jour. Le troisième jour, à l'inverse, elle sort tout le temps. Mais elle ne va pas chercher de la nourriture. Elle monte dans les herbes, elle descend, elle monte, elle descend. Au quatrième jour, elle commence à osciller comme si elle avait un peu picolé, la fourmi. Donc là, on commence à sentir qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de la fourmi. En fait, le champignon, il est en train de se propager sous forme de petites levures, donc qui se multiplient. Et au cinquième jour, tous les champignons entre eux, toutes les petites levures vont se connecter pour former une forme de mycélium. Et là, il va vraiment prendre le contrôle de la fourmi. Là, la fourmi, elle va monter sur une tige particulière, à une hauteur particulière, qui est déterminée, en fait, pour maximiser la reproduction du champignon. Donc, c'est à 25 cm de hauteur. Et elle va commencer à mordre cette tige. Et là, le cordyceps va couper, en fait, les muscles des mandibules, ce qui fait que la morsure va être éternelle. C'est-à-dire que la fourmi ne pourra plus jamais réouvrir ses mandibules, donc elle va être fixée là. Et là, ce qui va se passer, c'est que le champignon, il va former son corps fructifère qui va sortir de la nuque de la fourmi, qui fait trois fois la taille...
Je vous préviens juste que tout le monde est terrifié dans la salle, là.
Trois fois la taille de la fourmi. Et là, sur ce corps fructifère, il faut imaginer une tige comme ça, avec un petit coussinet rose. Et là, ça va bazarder plein de spores qui vont tomber juste en dessous. Et qu'est-ce qui se trouve en dessous?
Les
pistes de récolte. Et donc, comme ça va contaminer les autres fourmis.
Mais est-ce que ça peut arriver chez les humains?
C'était le scénario de Last of Us. Last of Us, ils ont dit Cordyceps, il a muté et il attaque l'humain. Et donc, dans le film, c'est les zombies ressemblent un peu, ils ont des têtes de chou-fleur dans Last of Us. Ça ne ressemble pas vraiment à la réalité, mais ce n'est pas possible en fait. Ah. Parce que Cordyceps, il a coévolué avec la fourmi pendant 48 millions d'années. Donc ça lui a pris 48 millions d'années à pouvoir maîtriser en fait le comportement de la fourmi. Parce qu'en fait, le but, l'objectif du champignon, c'est maximiser sa reproduction. Mmh. Et donc, petit coup par petit coup, la fourmi s'adapte au champignon, le champignon s'adapte à la fourmi. Et donc, c'est une espèce de combat comme ça. Et donc, ça fait 48 millions d'années. Et les insectes, ils n'ont pas le système immunitaire que nous, on a. C'est des organismes à sang froid. C'est beaucoup plus pratique pour le champignon, qui ne supporte pas les chaleurs très élevées. Et notre système immunitaire a un système de mémorisation et d'adaptation qu'ont pas le système immunitaire des insectes. C'est un petit peu plus facile, mais ça a quand même pris 48 millions d'années pour qu'ils puissent bien zombifier une fourmi.
Je suis très fascinée par la première histoire, parce que pour se reproduire, ils poussent les autres à se reproduire. Je trouve que c'est quand même...
Ça a une utilité parce que les cigales, en fait, c'est quand même des herbivores qui détruisent beaucoup de végétation. Et donc, ce champignon, il a son utilité entre guillemets dans l'écosystème, il contrôle les populations de cigales.
Hubert Voiry, je crois que vous avez vous aussi votre petite histoire de...
Oui, j'ai aussi mon cordyceps. c'est un peu moins gore.
Mais heureusement.
Mais donc, les cordyceps attaquent les insectes en général. Et là, donc, l'exemple, c'est Cordyceps sinensis qui se prend à des chenilles. Mais c'est dans des sites particuliers. Hein. C'est le haut plateau du Tibet, à plus de 4000 mètres d'altitude. Et donc, la vie des papillons, une espèce particulière de papillon. Normalement, dans le cycle normal, le papillon, au départ, c'est une chenille qui vit sous terre et puis qui après se transforme en papillon. Mais si la chenille est contaminée toujours par des spores de ce cordyceps, elle reste sous terre et donc le champignon, le cordyceps, se développe dans la chenille progressivement. Et en fin de cycle, il force la chenille à venir presque à la surface du sol. Et il fructifie, donc c'est un peu toujours les mêmes mécanismes. Il fructifie, mais là, sous forme d'un petit clou, simplement de 2 ou 3 centimètres. Ce qui fait que l'ensemble est constitué donc du corps de la chenille envahie par le champignon, plus ce petit clou de champignon qui dépasse. Et donc, ce champignon est connu depuis très longtemps dans ces pays, au Népal, etc. Parce que les éleveurs de yaks avaient remarqué que les yaks étaient plus ardents, en quelque sorte, au printemps, en mangeant ce qu'ils appelaient cette herbe. Parce qu'au départ, tout le monde pensait que c'était une herbe, simplement. Et le nom local, c'est herbe d'été et vert l'hiver. En fait, c'est un champignon.
Elle a quel goût ?
Et ce champignon a des vertus. Cette fois-ci, on peut le manger. Il est tellement réputé que c'est la substance qui atteint le prix le plus élevé, quoi, la substance
végétale.
Enfin, la substance organique.
Ah oui, c'est ça.
Donc, atteint des sommets jusqu'à 100 000 euros le kilo. Parce que depuis une vingtaine, trentaine d'années, il a pris beaucoup de valeur. Il est considéré comme le Viagra de l'Himalaya.
C'est mieux que les cigales de tout à l'heure, potentiellement. Donc là, on a un aspect bénéfique, peut-être, pour l'humanité. J'imagine, Audrey Dussutour, que les champignons ne sont pas que des organismes néfastes pour les fourmis ou pour d'autres insectes. Je crois que certains d'entre eux, certaines espèces, comme nous qui élevons par exemple des champignons de Paris, utilisent les champignons de manière active.
Ouais, les fourmis, en fait, les fourmis champignonistes, on appelle aussi les fourmis coupeuses de feuilles, elles pratiquent l'agriculture depuis 50 millions d'années, donc beaucoup plus longtemps que nous, et elles cultivent des grosses champignonnières. Donc en fait, c'est un loco agaricus qu'elles cultivent. Et comme nous, elles sont face à des problèmes de champignons parasites, parce que les champignons, ils n'hésitent pas à parasiter les autres champignons, hein, hyper opportunistes. Et donc, il y a un champignon qui s'appelle Escovopsis, qui attaque les cultures de champignons des fourmis. Et donc les fourmis, elles doivent faire face à ce champignon, et alors elles font, pour cela, elles enlèvent toutes les petites ifs du parasite, elles peignent un petit peu le champignon, elles ont aussi des sécrétions qu'elles mettent dessus, des antioxydants, etc. Et surtout, ce qu'elles ont fait au cours de l'évolution, il y a à peu près 20 millions d'années, c'est de s'associer avec des bactéries, des pseudocardia, qui sécrètent des antifongiques. Et donc en fait, la fourmi, si on la regarde, elle est toute blanche, comme une poudre là. Et ce sont en fait des colonies bactériennes qui produisent un antifongique. Et cet antifongique tue spécifiquement le parasite qui attaque leur champignonnière. Donc en fait, c'est une espèce de symbiose qui s'est faite au cours de l'évolution et qui permet aux fourmis de persister en fait depuis toujours grâce à cette association qu'elles ont faite avec les bactéries, qu'on pourrait y penser aussi.
Aurélie Saada, est-ce que ça vous conforte dans l'idée qu'il y a vraiment des champignons partout sur notre planète ?
Absolument. J'avais lu aussi quelque chose comme quoi, pour parler de champignons positifs, même si je crois que c'est toujours positif finalement, enfin, il n'y a pas de positif ou de négatif dans la nature, mais qu'en fait, les champignons, donc, on sait qu'ils nettoient les choses mortes, les choses qui ne fonctionnent plus ou qui n'ont. Et donc, qu'il y a des recherches qui sont faites en ce moment sur les maladies dégénératives et notamment sur Alzheimer, possiblement, que les champignons pourraient avoir, certains champignons pourraient avoir une action sur ces maladies-là, sur le cerveau humain. Et je trouve ça génial d'imaginer que ce sont des vivants avec nous, quoi.
Aussi. Il y a un petit peu ça, la recherche médicale s'intéresse aux champignons complètement, même des découvertes de certains produits ont été faites grâce aux champignons.
Oui, puis il y a des champignons qui ont été vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Claviceps purpurea, c'est un champignon qui s'attaque au seigle et qui faisait que ça crée une maladie qui s'appelle l'ergotisme pour les gens qui mangeaient du pain de seigle infecté avec ce champignon-là. Et au Moyen-Âge, l'ergotisme, il avait deux types, soit convulsif, les gens, ils avaient des hallucinations pas possibles, et ça a donné les fameux procès des sorcières de Salem, et aussi une forme gangréneuse, et en fait, les gens perdaient leurs doigts, leurs pieds, leurs nez, etc. Et c'est à cause de ce... Ils mangeaient ce seigle contaminé. Mais attendez, il y a quand même une belle fin à cette histoire. C'est qu'en fait, ce champignon... Il produit des alcaloïdes, qui sont des molécules particulières, qui sont maintenant utilisées en médecine. Donc en fait, on s'est intéressé à qu'est-ce qui produit ce champignon. En fait, ce champignon, il produit des alcaloïdes pour se défendre des herbivores. Il n'a pas envie de se faire manger par une chèvre. Et donc, il produit des alcaloïdes. Et ces alcaloïdes, il y en a plusieurs. Donc, il y a l'acide lysergique, qui nous a donné le LSD. Il y a l'ergotamine, qui est un anti-migraineux, et il y a aussi des substances qui sont utilisées pour traiter la démence, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer. Mmh. Donc un champignon, il peut avoir été vraiment pas très sympa dans le passé, mais maintenant, c'est une vraie armoire à pharmacie, ce champignon.
Dans quelques instants, nous allons donner la parole au public pour ces questions. Et en attendant, nous allons, pour que tout le monde se prépare bien, nous allons écouter The God of Lying de Gorillaz avec le featuring des Idols.
Who am I? Are you happy with your housing? Are you climbing up the walls? Are you deafened by the headlines? Or does your head not hear at all? Are you pacified by passion? Are you armed to the teeth? Are you bubbling at the surface of what's cooking underneath? Are you dying for an answer for what they call good grief? But there's a terrific chance there's nothing beyond what you believe. Father, anointed by fear of death. Do you feel the lies creep on by as soft as baby's breath? Do you beg that truth will set you free? Are you shackled by the keys? Well, if I was you, I'd stay strapped in, 'cause all you've got is me.
Nous sommes toujours en compagnie de mes trois invités, le mycologue Hubert Voiry, la biologiste Audrey Dussutour et la chanteuse-compositrice Aurélie Saada et le public du studio 621 qui se prépare à poser ses questions sur les champignons.
Big Bang, Christophe Galfard sur France Inter.
Notre première question est de Dalel.
Alors, c'est une question. Bonjour à tous, merci pour l'émission, c'est top. Quand on ramasse les champignons, faut-il couper le pied du champignon et le laisser nourrir la terre, ou au contraire ne pas couper et frotter juste le bout du champignon?
Hubert Voiry.
Donc il est conseillé, quand on ramasse des champignons, de les cueillir, en fait, de cueillir en entier, de façon à avoir tous les éléments d'identification du champignon. C'est au cas un peu où se poserait un problème d'intoxication, mais aussi parce que c'est comme un fruit, donc c'est mieux de récolter entièrement. Donc parce que si on le coupe, on peut perdre des éléments d'identification, et souvent on a moins de matière en quelque sorte. Par contre, le couper n'a pas beaucoup d'influence quand même sur le devenir du champignon, parce que si on ne le coupait pas, ça revient un peu au même. Hein. Le champignon finit par moisir, par être attaqué par d'autres champignons.
Aurélie Saada.
J'ai une question. Est-ce qu'il y a des champignons en voie d'extinction?
Oui. beaucoup de champignons sont beaucoup de macromycètes, des champignons qu'on rencontre, sont liés à des milieux, à des forêts, à des milieux humides. Et aussi aux végétaux, ils sont souvent liés à des végétaux, soit ils sont symbiotiques, soit ils peuvent être parasites. Donc si ces milieux disparaissent, les champignons disparaissent aussi. Enfin, aux endroits considérés.
Donc le réchauffement climatique a aussi un impact sur les champignons.
Le réchauffement climatique également a un impact. D'ailleurs, à ce titre, il y a les champignons ne sont pas protégés en France. Il n'y a pas de protection actuellement. Et c'est une réflexion qui est en cours, justement, c'est d'actualité, de protéger un certain nombre de champignons pour montrer aussi qu'ils ont une importance dans l'écosystème. Mmh. Mais en même temps, il faudrait aussi protéger ce qu'on appelle les habitats, quoi, le lieu où ils vivent.
Nous avons une question d'Edouard.
Je vous remercie de prendre ma question. Donc, ma question très simple, je voulais savoir si les champignons étaient les êtres vivants les plus vieux de la Terre.
Alors, je vais peut-être répondre moi à cette question. Lorsqu'on regarde l'ensemble des organismes qui existent sur Terre, on peut essayer de les différencier par leurs briques de base qu'on appelle les cellules et la façon dont, par exemple, l'ADN est stocké à l'intérieur de ces cellules. Quand on fait ça, on réalise qu'il y a plusieurs catégories de vivants. En réalité, il y en a trois. Il y en a deux qui sont contenus dans des cellules qui n'ont pas de noyau, dans lequel l'ADN serait caché, et une catégorie dans laquelle il y a un noyau avec l'ADN à l'intérieur. Tout ce que nous voyons plus ou moins à l'œil nu, à savoir les animaux, les plantes, les champignons, font partie de la catégorie des cellules qui ont des noyaux. Et on sait que ce ne sont pas ces cellules-là qui sont apparues en premier sur Terre. Les autres, qui contiennent les bactéries et les archées, par exemple, ce sont deux autres catégories de vivants, étaient là bien avant les cellules avec noyaux, l'ADN à l'intérieur. Donc il y a eu avant les bactéries et les archées, au moins.
Je me suis trompé, c'est pas en fait les plus vieux dans leur date d'arrivée sur Terre, mais par rapport à la longévité. C'est-à-dire que est-ce que ce sont eux les plus vieux dans le fait qu'il y ait des champignons qui soient ancestraux et qui sont encore vivants?
Eh bien, on va se tourner vers Audrey Dussutour pour répondre à cette question.
Oui, il y a des champignons en fait qui ressemblent à la première lignée, aux premiers ancêtres des champignons, parce que les premiers ancêtres des champignons, ils étaient aquatiques, donc comme les animaux, donc ils sont nés dans les océans. Et c'était des organismes unicellulaires qui ressemblaient un petit peu à des spermatozoïdes. Ils étaient vraiment tout petits. Et on en trouve encore aujourd'hui. Ça s'appelle les aphélides et les cryptomycota. Il y en a beaucoup. Ils vivent dans les océans. Ils sont vraiment inféodés au monde aquatique. Et donc, on en retrouve. Et après, on peut aussi parler en termes de longévité. Les champignons peuvent vivre très longtemps. Et le plus grand champignon au monde, qui est l'armillaire couleur de miel, qui est dans l'Oregon, qui fait 1000 stades de foot, il a 2500 ans. Donc, non seulement ils ont une longévité, et il y en a quand même vraiment à aujourd'hui qui ressemblent aux champignons primitifs.
Nous avons une question d'Honoré.
J'avais une question pour savoir, parce que la pomme, quand on la laisse toute seule, bah, elle pourrit. Mais du coup, pourquoi nous qui... Enfin, pourquoi nous, on ne pourrait pas au bout d'un moment? Enfin, on n'a pas de moisissure.
Alors, pour plusieurs raisons, parce qu'on a un système... Alors déjà, on a une température corporelle qui est bien trop chaude pour les champignons, ils n'aiment pas trop 37 degrés. Et surtout, on a un système immunitaire qui est extrêmement efficace. C'est-à-dire que quand tu inspires là, en ce moment-là, tu inspires des spores, et en fait, tes spores, elles sont capturées par les cellules de ton système immunitaire. Hein, c'est un petit peu comme des gardes du corps qui vont tuer ces spores, qui vont les détruire. Et c'est pour ça que c'est très dangereux, les spores de champignons, pour les gens qui sont immunodéprimés, qui sont malades, qui ont le cancer, par exemple, parce qu'eux, ils ont un système immunitaire qui va pas être capables de tuer ces spores, elles vont donc pouvoir germer. Et c'est le cas des aspergilloses invasives. Quand vous aspirez des spores d'aspergillus, il va germer dans vos poumons et ça peut être problématique. Et c'est pour ça que c'est très dangereux, les champignons, pour les personnes immunodéprimées.
Une question de Gérard.
Ouais, les champignons sont à part, on a vu, sont ni des animaux ni des plantes. Et les lichens, je crois, qui sont très proches des champignons.
Alors, les lichens, ce sont ce qu'on parlait tout à l'heure, les ascomycètes en majorité. Et ils sont, en termes de biomasse, c'est 95% champignons, 5% algues ou cyanobactéries. En fait, c'est une symbiose entre un champignon et une algue. L'algue, elle va produire des sucres grâce à la photosynthèse, grâce à l'énergie du soleil. Elle va donner ce sucre au champignon. Le champignon, en échange, produit la protection, amène de l'eau et des minéraux aux algues ou aux cyanobactéries, selon l'association. Et il existe plus de 20 000 espèces de champignons qui vivent en association avec les algues et les cyanobactéries. Donc les lichens sont plus champignons quand même que algues.
Et on a est-ce que du coup ce sont ces lichens qui étaient probablement les premières espèces à venir coloniser les terres?
Alors les tout premiers champignons qui ont commencé à coloniser, enfin c'est ceux qui venaient du monde aquatique, c'est les chytrides, on dirait plus, qui sont entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. C'est les premiers champignons vraiment, c'est ceux qui ont attaqué les grenouilles, les champignons qu'on appelle les champignons de l'apocalypse, qui ont attaqué les grenouilles. Ce sont des champignons aquatiques qui vivent encore, qui sont un peu inféodés au milieu aquatique, mais qu'on retrouve aussi dans le milieu terrestre, qui par exemple infectent les pommes de terre. Donc voilà, c'était eux plutôt les premiers, je pense.
Nous avons une dernière question de Laurent.
Oui, bonjour. Vous avez parlé du mycélium comme d'un organisme. Et si j'ai compris, le champignon qu'on mange n'est que le fruit. Où se situe l'individu ? Est-ce que c'est le mycélium lui-même ?
Hubert Voiry.
Oui, le mycélium, c'est l'organisme. Donc on peut avoir sur un seul mycélium, on peut avoir plusieurs fructifications. Par exemple, vous allez récolter des cèpes, il peut y avoir plusieurs cèpes côte à côte. Ils appartiennent au même individu, qui est l'individu, qui est le mycélium. Et puis il y a d'autres champignons, d'autres stratégies qui n'occupent pas une grande surface de mycélium. Là, ça peut aller pour les plus grands d'une dizaine de mètres carrés, par exemple. Puis pour d'autres, c'est tout petit et le mycélium ne dure pas très longtemps dans le sol.
Dans vos études, de la façon dont le mycélium peut s'étaler dans les sous-sols, vous disiez qu'il y a parfois des petits bouts de racines des arbres sur lesquels les champignons viennent de se coller. On avait fait une émission il n'y a pas très longtemps sur le langage des arbres et on avait essayé de regarder si à tout hasard les arbres pouvaient communiquer grâce aux champignons qui tenaient leurs racines. Alors il semblait que ce n'était pas du tout quelque chose qui était d'actualité. Mais cette idée qu'il existe sous terre, dans les forêts, tout un monde qui est complètement inconnu, qui est fait de batailles, qui est fait d'entraide, qui est fait de d'évolution permanente, je trouve que ça donne une géométrie aux forêts qui est bien différente que celle des petits champignons qu'on voit, des arbres qui poussent dans l'air. Ça nous rappelle qu'il existe sur Terre des volumes qui sont bien différents et qui sont en haut, en bas, un petit peu partout autour de nous. C'est dans ce sens-là, peut-être, que je vais vous faire écouter un petit son mystère qu'on va essayer de découvrir ensemble. Et vous pouvez l'écouter, et si ça vous inspire quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez que c'est. Voici donc le son. Audrey Dussutour, je vous vois dire oui de la tête parce que vous avez reconnu, j'imagine.
Oui, j'ai vu la vidéo.
Ah, vous avez vu la vidéo, très bien, très bien, très bien. Eh bien, écoutez, avant que vous nous disiez ce que vous en pensez, vous, nous allons écouter John Ross, qui est un ingénieur britannique, fondateur du projet Bionic and the Wires, et qui nous dit au téléphone depuis Manchester ce qu'on vient d'entendre.
Well, you're not going to believe this.
Aussi fou que ça puisse paraître, la musique que vous venez d'entendre est un pleurote, avec des bras robotiques qui jouent du piano synthétiseur. Nous avons développé un système unique qui interprète les signaux bioélectriques des champignons et des plantes et qui les traduit en un mouvement afin qu'ils puissent jouer sur des instruments de musique. Le champignon est ici dans un laboratoire avec d'autres champignons qui l'écoutent en train de jouer. Nous collectons les signaux bioélectriques des champignons et des plantes à l'aide d'un équipement qui fonctionne un peu comme un détecteur de mensonges. Il mesure la quantité d'activité ou d'électricité dans le champignon, donc pas dans son cerveau ou son système nerveux, mais dans tout son corps. Chaque type de champignon et de plante produit un rythme et un schéma électrique différent. Lorsque l'on crée de la musique avec eux, on peut choisir lequel utiliser en fonction du type de musique que l'on veut faire. Ces signaux sont également affectés par des conditions comme la température, la lumière et l'humidité. Donc on peut travailler avec des plantes ou des champignons qui sont plus actifs en sélectionnant des conditions environnementales favorables.
Merci à Élodie Royer d'avoir prêté sa voix à la traduction. On va peut-être réécouter ce son avec vous, Aurélie Saada. Peut-être que vous pouvez analyser, musicalement parlant, la musique d'un champignon. Vous pouvez nous dire ce que ça vous inspire.
Ce que je trouve marrant, c'est qu'il y a, comme quelque chose qui se répète, mais pas tout à fait. Et c'est là où on voit que c'est du vivant et que c'est pas de l'intelligence artificielle ni un robot, parce qu'il y a quelque chose d'inattendu. Et c'est ça qui est très très chouette, je crois.
C'est vrai qu'on on entend une sorte de mélodie quand même qui arrive. Hein.
Ça se répète, mais pas tout à fait.
C'est vrai.
Comme nous.
Vous aviez vu la vidéo, Audrey
oui,
Dussutour.
Oui, et en fait, ça avait déjà été fait avec les blobs. Il y avait Eduardo Miranda qui s'était connecté avec un blob. Et alors, en fait, lui, il faisait du piano et ça faisait des impulsions électriques au blob. Et le blob, en réaction, il faisait des impulsions électriques qui étaient captées par des capteurs sur un autre piano avec un système d'aimant. Et donc, les deux jouaient du piano, l'un avec l'autre. Et c'était très marrant de voir comment le blob réagissait à la mélodie et comment il répondait.
Je vous propose d'écouter quelques secondes encore ce son magnifique d'un champignon qui fait un concert à d'autres champignons. Qu'est-ce que vous en pensez, le public ? On applaudit le champignon ou pas ? Il est pas mauvais. Et c'était Big Bang. Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à John Ross pour votre intervention depuis Manchester et à Elodie pour la traduction. Merci à Aurélie Saada. C'était un plaisir de vous avoir et c'est un plaisir d'annoncer à vos fans que vous démarrez un nouveau groupe, Ravage, avec Gaspard Royan. Merci à vous, Hubert Voiry. Votre livre 10 champignons qui ont changé la vie des hommes vient de sortir aux éditions Actes Sud. Merci Audrey Dussutour. Votre livre à vous, Les champignons de l'Apocalypse, c'est aux éditions Grasset. Merci encore au public du studio 621 de la Maison de la Radio, ainsi qu'aux champignons musicaux. Cette émission a été réalisée par Antoine Larcher, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, à la technique Alix Barrois, à la vidéo Thomas Allard et à la préparation et à la programmation et à la traduction Élodie Royer. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour deux émissions enregistrées, la première sur les plantes et la seconde sur les origines de la vie. Pour réserver vos places, la billetterie vient d'ouvrir sur le site de la Maison de la Radio et de la Musique et c'est gratuit.